Chapitre 25. 20e jour d'octobre, an de grâce 1669. Il aura fallu un an pour que je trouve la force de prendre la plume. La peine ravivée par l'anniversaire n'y est pas étrangère. Ce qui s'est passé cette nuit de l'automne dernier me hante constamment. Pas une heure, pas une aube ne m'épargne les atroces souvenirs dont mon âme garde l'empreinte tout autant que ma chair. Meurtri de ce que j'ai vécu, je le suis plus encore par ce dont je n'ai pas été le témoin. Songer aux événements est une torture. Ce qui fut infligé à mes proches est impensable. Et, je l'avoue sans honte, m'a pour la première fois amené à douter de la puissance du Très-Haut. Tant de souffrances et d'injustices ne peuvent engendrer qu'une infinie soif de vengeance. J'ai l'espoir qu'en couchant mes tourments dans ces pages, j'éloignerai les cauchemars qui m'assaillent. Même si ce n'est qu'un peu, ce sera déjà bon. C'est ainsi que ce soir, j'ose enfin écrire à la suite de mon père. J'ai lu ces mots, et ceux de nos ancêtres. J'ai découvert ce que père m'a présenté comme la véritable nature de la baie. J'ai surtout pris conscience que tout au long de mon enfance, ceux que j'aimais auront vécu une double vie dont je n'ai rien soupçonné. Pourquoi ne m'en ont-ils rien révélé? Quelle que soit leur justification, je ne les approuve pas et je fais ici le serment de ne jamais mentir à ceux qui me font confiance. La trahison d'un ennemi peut se soigner par la revanche, mais celle d'un être aimé reste éternellement une plaie béante. J'ai compris que mes prédécesseurs avaient écrit ces feuillets avec l'idée que leurs suivants apprennent de leur expérience et poursuivent leur œuvre. Je vais m'efforcer de continuer en assumant la charge. Mon père l'aurait voulu, et je veux qu'il soit fier de moi. À défaut de me dire que j'écris pour ma descendance, je compte le faire pour ma jeune sœur Hailey. De notre famille, il ne reste plus que nous deux. En une nuit, notre village a été décimé. Des 38 habitants de Kilthorpe, nous ne sommes plus que 5. Les seuls à avoir vu le soleil se lever à nouveau ont été les 3 qui n'eurent pas le temps de rejoindre les autres à la grotte, ainsi que moi qui étais enfoui et Hailey, miraculeusement rescapé du massacre des nôtres. Pour continuer à exister, nous avons dû nous joindre aux survivants du village du plateau, tout aussi durement frappés que nous l'avons été. Lorsque mon père m'a demandé de m'enfermer dans le cercueil où le vieux Gowan reposait pour l'éternité, je n'ai pas compris. Je me suis laissé faire par confiance et affection. Une dernière fois, j'ai senti sa main chaude se poser sur mon front. Le soir, depuis quelque temps, lorsque le sommeil me gagne, il me semble encore la sentir. Le croissant de lune dans le ciel étoilé au moment où le couvercle m'a emprisonné reste lui aussi gravé dans ma mémoire. J'ai ensuite entendu leur voix, jusqu'à ce que la terre qui s'abattait sur les planches les éteigne. Je me suis efforcé de rester calme. J'ai d'abord eu chaud, puis la sensation d'étouffer s'est immiscée. J'ai voulu me débattre. J'ai eu envie de faire exploser mon cachot, mais j'étais incapable de bouger. Contraint de toutes parts, j'étais écrasé. Dans ces ténèbres totales, dans ce silence absolu, j'ai cru devenir fou. J'ai hurlé, je me suis contorsionné à m'embriser la colonne pour forcer sur ces maudites parois. L'évoquer ravive ma fièvre. Mon père m'avait conseillé d'économiser l'air, mais je n'y parvenais pas. L'écho de sa voix ne suffisait plus à me redonner la maîtrise de moi-même. Il m'avait incité à puiser dans la vaillance de ceux qui m'avaient précédé, mais j'étais seul et je suffoquais, enterré vivant. Je ne lui conserve pourtant aucune rancune, car le lendemain a tristement prouvé qu'il avait vu juste en m'infligeant cela. Non seulement j'ai survécu, mais ce qu'il m'a confié est toujours en ma possession. Reste que jusqu'à mon trépas, je haïrai les nuits, et plus personne ne m'enfermera jamais nulle part. L'épuisement a-t-il eu raison de moi, ou ai-je perdu connaissance? Jamais je ne le saurais, mais effectivement, le temps est passé sans que je m'en rende compte. Ce sont les coups qui m'ont réveillé. Puis la lumière m'a aveuglé. Des bras m'ont saisi pour m'extraire de la tombe, et je n'ai même pas eu la force de tenir debout. Je me suis effondré à genoux dans la terre fraîchement retournée, incapable de garder les yeux ouverts. Mes premiers mots ont été pour appeler mon père. Une voix m'a répondu qu'il n'était pas là. aux sanglots retenus de celui qui parlait, j'ai aussitôt compris qu'il ne le serait plus jamais. Il m'avait confié son secret, il m'avait serré dans ses bras, je portais sa chevalière, mais je ne contemplerai plus jamais son visage ni n'entendrai sa voix. J'aurais volontiers échangé tout ce qu'il m'avait offert pour le sentir encore un peu auprès de moi. Prétendre que ma vie a changé en une nuit ne reflète pas la réalité. La vérité s'établit bien au-delà. À peine libéré de mon trou, j'ai deviné que plus rien ne subsistait de mon existence passée. Le monde qui était le mien avait été anéanti. Aujourd'hui, je mesure à quel point cette intuition était juste. Il est étrange d'avoir à le constater, mais j'entamais une nouvelle vie dans laquelle j'ai commencé par mourir. En revenant d'entre les morts, il m'a d'abord fallu survivre, pas à pas, heure après heure, pareil à un nouveau-né devant tout réapprendre et n'ayant pour toute expérience que la douleur du manque de ce qui était avant. Chaque jour passant, j'ai peu à peu compris pourquoi mon père m'avait appris certaines choses dont sur le moment je n'avais pas saisi l'importance. J'ai d'abord pleuré et éprouvé toute la rage du monde en découvrant les dépouilles des miens. Mais j'ai aussi ressenti la plus grande des joies lorsque j'ai vu réapparaître Ailey. Elle n'a rien dit de ce qui s'était passé. Elle refuse encore d'expliquer comment elle a survécu. Elle m'a simplement confié que son enfance était restée avec son petit cheval et son cavalier. J'accepte son silence concernant les circonstances parce que sa présence est mon unique bonheur. Elle est le miracle qui m'a sauvé du naufrage. Nous avons regagné notre maison où jamais plus personne ne nous dirait ce que nous devions faire. Livrés à nous-mêmes, nous nous sommes efforcés d'effacer les dégâts. J'ai débarrassé les assiettes, celles de soupe désormais glacées de mon père, et celles décorées à laquelle ma mère tenait tant, les seules ayant échappé de la barbarie dans notre foyer. Je refuse qu'elles servent à qui que ce soit. Je les ai nettoyées, mais elles ne seront plus utilisées. Pourtant, elles ont leur place avec nous, à la table, lors de chaque repas. Grâce à elles, père et mère sont présents autrement que dans nos prières et nos pensées. Jour après jour, nous avons pris conscience de l'horreur qui nous avait foudroyés. J'ai caché ce document comme je l'ai pu, et même si je pense avoir découvert la niche où mon père le rangeait, je ne l'utilise pas. Elle ne m'inspire pas confiance. J'y entrepose simplement mes souvenirs. Dans les mois suivants, sans jamais laisser ma sœur seule, je me suis consacré à ce qu'imposaient les nécessités de notre situation. Beaucoup de gens se tournaient vers moi pour savoir quoi faire, comment reconstruire et s'organiser. J'avais constamment la sensation que c'est à mon père qu'ils s'adressaient et qu'ils se tenaient derrière moi prêts à leur répondre. Mais il restait absent. Alors je me suis demandé ce qu'il aurait décidé s'il avait été là, et je le leur ai dit. Le grand bateau est arrivé quelques jours plus tard. Comprenant ce qui s'était passé, le capitaine Alonso m'a pris à part. Ce n'était pas la première fois que je voyais l'Espagnol, et il s'était toujours montré amical avec Ailey et moi. Je me souvenais aussi des éclats de rire qu'il partageait avec mon père, qui disait de lui le plus grand bien. Alonso était le seul étranger que père considérait comme faisant partie de notre famille. Il parlait de lui entre ses visites, nous l'attendions, et mère lui préparait toujours un bon repas. Je lui ai raconté ce que je savais de la nuit. Il a pleuré. Il m'a pris dans ses bras et m'a déclaré que désormais, il était le seul à pouvoir me comprendre. Il m'a souhaité bonne chance, puis m'a demandé de le suivre. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire, ce qu'il avait coutume de régler avec mon père avant que je ne sois au courant. Deux jours plus tard, son navire reprenait la mer. Il est revenu à la fin du printemps suivant et doit encore nous visiter dans quelques jours. Je l'attends avec grande impatience. La vie a repris son cours, surtout pour les autres. Nos morts reposent désormais dans les catacombes que nous avons aménagées dans la grotte de la falaise au visage. J'y monte chaque fois que j'en ai le temps, souvent avec Ailey. Je ne réussis cependant à trouver ni la paix ni le repos. Si je prends la plume aujourd'hui, c'est aussi pour assurer à ma sœur qu'il ira le moment venu, ainsi qu'à ceux qui me succéderont, que jamais je ne renoncerai à trouver les meurtriers qui s'en sont pris aux nôtres et au village. Kiran, le seul compagnon de mon père à avoir survécu, m'a confié que lors de cette épouvantable nuit, celui-ci lui a révélé que quelqu'un d'ici avait trahi, et qu'il faudrait découvrir qui. Père comptait élucider ce mystère plus tard, après avoir survécu. Je suis aujourd'hui à sa place, éclairé par sa chandelle, portant sa chemise et sa chevalière. Pour lui, pour notre mère, pour ceux avec qui nous vivions et qui ont péri, je jure que je vais m'y employer corps et âme.